Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus sur Voix d'Exil, le média d'information destiné à l'expression libre des personnes migrantes. Je suis Omar Odermatt, responsable de la rédaction et je suis en compagnie d'Elvana Touffa, qui est également membre de la rédaction. Bonjour Elvana.
Bonjour Omar.
On continue aujourd'hui la série de podcasts de Voix d'Exil. Que sont-ils devenus ? Cette série met en lumière les anciens et les anciennes collaborateurs et collaboratrices de la rédaction de Voix d'Exil, les anciens rédacteurs et rédactrices, en éclairant leur parcours au sein de la rédaction et ce que cette expérience leur a apporté. Avec Elvana Touffa, nous recevons notre deuxième invitée de la série, Marie-Cécile Inarukundo, en Suisse depuis 2017 et qui a été membre de la rédaction entre 2019 et 2020. Bonjour Marie-Cécile.
Bonjour Omar.
Et bienvenue et quel plaisir de te retrouver parmi nous aujourd'hui.
C'est aussi un grand plaisir.
C'est un vrai plaisir de t'avoir ici. Avant, on était collègues et maintenant, on est devenus amis après.
Oui, tout à fait. C'était un plaisir aussi de te retrouver.
Il y a un proverbe burundais qui dit « Là où il y a de l'amour, il n'y a pas de ténèbres ». Combien est-il difficile de confronter et surmonter des ténèbres qui ne dépendent pas de nous après avoir fait des choix forcés par des circonstances qui nous échappent ?
C'est difficile. Quand on est confronté à des ténèbres, comme vous dites, on doit faire des choix. Et une fois qu'on a fait des choix en toute conscience, en fait, on est obligé de s'y caler et de s'y conformer. On intériorise et on avance. En résumé, c'est ça.
Oui, en fait, c'est des choix forcés que on n'est pas obligé forcément de les prendre, mais à un certain moment de la vie, on les fait.
Exactement. Il y a des circonstances de la vie qui font qu'on décide ce qu'en d'autres moments, on n'aurait pas fait.
Oui, justement. Oui. On ne sait pas si c'est juste ou pas, mais...
À ce moment-là, c'est juste.
C'est à faire, oui.
Oui, justement. C'est à faire, oui.
Est-ce qu'on s'allège une fois qu'on s'est habitué ou que l'on a accepté cette nouvelle voie, vie, les nouvelles circonstances et nouvelles conditions ? Je veux dire, est-ce qu'on arrive à s'y faire ?
À mon avis, quand on prend une décision, quand on est face à une situation et qu'on prend une décision, on s'y fait. On est obligé de s'y faire. Comme on dit en français, quand on n'a pas ce qu'on aime, on aime ce qu'on a. Alors, ce n'est même pas une question de quand on n'a pas ce qu'on aime. Quand on est face à une situation et qu'on décide d'un chemin à prendre, on doit s'aligner au chemin qu'on a décidé de prendre. Il n'est plus question de regarder en arrière. Quand on regarde tout le temps en arrière, on n'avance pas. Alors quand on a décidé, on avance et on y va. Et c'est en marchant qu'on apprend à aimer cette marche-là.
Oui, on devient responsable. Dès qu'on prend des responsabilités, on a cette obligation de les amener jusqu'au bout.
De continuer à regarder devant.
Est-ce que vous pouvez nous raconter les moments forts de votre parcours de Burundi à la Suisse ? Comment avez-vous vécu ce voyage ?
C'était mitigé. C'était tout quitter pour aller ailleurs. C'était un voyage avec 3 enfants. Je me suis posé beaucoup de questions. Dans l'avion. J'ai pas pu dormir. Ouais, je me suis posé beaucoup de questions. C'est le seul moment... Ça a été le moment charnière entre la décision et l'atterrissage ici. On se demande, est-ce qu'on a pris la bonne décision ? Il y a beaucoup de « est-ce que ?». Puis, au moment quand on annonce qu'on va atterrir, on ferme cette porte. On ferme cette porte, on se dit « ok ». Les bougainvilliers qu'on vient de planter, on oublie. La maison qu'on vient de repeindre, on oublie. Les collègues qu'on a eus, on oublie. On ferme cette porte et on laisse l'autre s'ouvrir.
Je vous crois bien. Maintenant, je me souviens, je me rappelle aussi de les mêmes choses que vous mentionnez. C'était le même parcours, les mêmes questions, les mêmes « est-ce que ?». Mais vraiment, il faut les fermer, ouvrir des nouvelles. Vous êtes parmi les personnes qui ont contribué à Voix d'Exil au cours de ces 20 ans d'activité et nous sommes très heureux de vous accueillir dans ces séries. Pouvez-vous partager avec nous l'expérience de votre participation à ce média ?
Ça a été une expérience très, très intéressante et j'ai beaucoup aimé.
Votre contribution par rapport à les articles, les sujets que vous aimiez, qu'est-ce que vous avez produit en fait lorsque votre engagement à Voix d'Exil?
Je ne me souviens pas de tous,
bien sûr,
mais il y en a deux qui m'ont marqué. C'était la couverture de deux événements qui étaient assez importants. C'était la démonstration. Comment on appelle?
Oui, manifestation.
Manifestation, oui. Merci. C'est la manifestation des femmes lors de la journée de la femme.
Oui, la grève des femmes.
La grève des femmes.
2019, hein, c'est ça?
2019.
Le 14 juin 2019.
14 oui, juin 2019.
Une très grande manifestation.
C'était juste
c'est
fabuleux.
Avant le Covid.
Oui. Et puis le deuxième, ça a été celui du climat.
C'était le sommet Smile
for Future.
Voilà, à l'université de Lausanne en juillet 2019 aussi. Hein.
Oui, je pense, oui, c'était en juillet 2019.
Donc, ce sont des thèmes que vous tenez au cœur.
Pardon ?
Ce sont des thèmes que vous tenez au cœur, le féminisme,
non, pas
le climat.
Non, pas spécialement, non. Ce qui me tenait à cœur le plus, c'était la rencontre avec les collègues, parce qu'on venait de divers horizons. Ça a été le contact, en fait. Ça a été très, très intéressant. Et puis aussi, il y a des articles que j'ai ébauchés. Je ne sais plus si on les avait publiés, mais c'était les parcours des collègues ou les parcours d'autres migrants comme moi.
C'était peut-être la série Les 10 ans de l'EVAM.
Je pense, oui.
C'était 10 portraits pour Les 10 ans de l'EVAM. Peut-être c'était ça.
Il y a ça, oui. Il y a ça. Mais il y avait aussi, je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était le témoignage d'un Syrien qui était passé par plein de choses et c'était juste incroyable.
C'était... Oui, alors c'était, oui, effectivement, c'était l'histoire d'Abdou dans les prisons syriennes.
Exactement.
Il avait vraiment vécu l'enfer.
L'enfer.
C'est un sujet qui nous avait beaucoup remué à l'époque. On en avait longuement débattu, si je me rappelle bien.
On a travaillé dessus pendant des mois.
Pendant des mois, parce qu'il fallait vérifier les sources.
Vérifier les sources, lui parler, revenir sur les événements, revenir sur son parcours, vérifier ce qui s'était passé vraiment.
Et si je me rappelle bien, justement, c'était difficile de vérifier les sources parce que lui-même avait une mémoire fragmentée par la torture.
Exactement.
Et donc, du coup, on doutait parce qu'en fait, son récit était incohérent. Hein, c'était ça.
Exactement, hein. Oui. Et c'est... Enfin, l'impact que ça a eu en fait sur moi, c'est qu'en fait après on relativise, on se dit quelque part je ne vois pas le bout du tunnel, mais quand on rencontre des gens comme ça, on se dit non, on n'est pas plus mal que les autres.
On se remet debout
et on marche. S'il parvient à marcher, moi je courais. Ouais.
Si je me rappelle bien, c'était vous qui avez mené l'interview d'Abdou.
Oui.
C'est ça?
Oui.
Et
oui.
Est-ce que vous vous rappelez de ce moment, de cette interaction, de cet échange avec lui?
Oui, oui.
Oui, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu cet épisode?
C'était fort, hein. C'était fort dans le sens où, en pleine phrase, il revenait en arrière de 3 mois, puis il avançait de 5 mois. En fait, suivant ce qu'il était en train de dire, suivant le moment où qu'il était en train de raconter, une émotion le projetait ou dans une autre grande émotion future ou dans une autre grande émotion du passé. Et il fallait s'arranger parce que si on l'interrompait, en fait, on interrompait tout. Et il me revenait de le revoir plus tard pour remettre un tout petit peu de cohérence dans ce qu'il a dit, quand il serait plus calme. C'était un peu éprouvant, je pense.
Ouais.
On l'a vécu les deux ensemble, hein, Cécile. Je me rappelle, effectivement, son récit était extrêmement bouleversant. Mmh. Et moi, ce que j'en retiens, c'est qu'en fait, l'horreur de ce qu'il a vécu dépassait même ce que je pouvais imaginer, en fait.
Oui, hein, c'est ça.
C'est la réalité, en fait, qui surpasse la fiction.
Exactement, c'est ce que
Qu'est-ce
ça m'a laissé.
Qu'est-ce qu'il est devenu maintenant, vous savez?
On a perdu contact, mais c'est ce qui m'a marqué, en tout cas, à l'époque, dans son récit.
Oui.
Justement, par rapport à cette expérience à Voix d'Exil, est-ce qu'elle est différente ou similaire avec votre expérience de journalisme dans votre pays d'origine?
Le journalisme, chez moi, je n'en ai pas fait, en fait. Et c'est ça qui était intéressant ici.
D'accord.
C'est que, en fait, À un certain moment, on se dit, je parle une langue, je l'écris bien, donc je peux être journaliste. Ah ben non, Omar a bien vite fait de me remettre à ma place. Vraiment. Et c'était très intéressant parce que j'ai beaucoup appris justement qu'il ne suffisait pas que, par exemple, Elvana me raconte son parcours et tout, pour que je l'avale tel qu'il est. Non. Il faut que je vérifie ce qu'elle est en train de me dire. Il faut que je vérifie les places dont elle est en train de parler, si elles existent vraiment. Il faut que je vérifie si le trajet qu'elle est en train de dire est réaliste. Il faut que je vérifie. Il faut tout vérifier.
Il faut
vérifier les sources.
Oui,
il faut douter. Si elle me dit que c'est le ministère de l'Intérieur de... Il faut que je vérifie que ce ministère existe. Si elle dit qu'elle avait pris Air Qatar, il faut que je vérifie que Air Qatar existe. Parce qu'il faut donner beaucoup de précisions. Il faut être précis dans ce qu'on dit et dans ce qu'on écrit. Et il y a une façon de formuler. On ne formule pas n'importe comment. Oui, j'ai beaucoup appris. Vraiment.
Bon, c'est bien à savoir. Ouais. C'est une école percée. Ben, justement, par rapport au sujet qu'on tient au cœur, qu'on parlait avant, est-ce que vous avez des sujets, en fait, qui vous teniez au cœur quand vous travaillez à Voix d'Exil?
Oui, c'était cette occasion de donner la parole aux gens pour qu'ils s'expriment, pour qu'ils parlent. Je pense que dans la vie, chacun a un jour besoin de parler, de s'exprimer, de dire ce qu'il pense, de dire ce qu'il ressent. Et moi, à mon avis, c'est enrichissant, quel que soit le sujet qu'on aborde. Et en général, ici, c'était le ressenti des gens, leur parcours, leur vie.
Oui, des histoires différentes. Ouais.
Des histoires différentes, oui. Des parcours différents.
Oui.
Oui, oui. Des appréciations différentes.
Justement. Est-ce que vous avez un souvenir qui vous a marqué pendant le temps passé ici?
Il y en a beaucoup. Il y a les journées à Voix d'Exil. Il y avait... C'était beau, hein? C'était beau. On riait, on travaillait, mais on riait beaucoup. Il y avait beaucoup de vie dans les salles où on travaillait.
Oui, il y a toujours
oui.
Les séances de la rédaction.
Les séances de la rédaction, les cafés, la préparation, le travail sérieux.
Mais il y avait toujours les grillades, en fait. Oui.
Mais il y avait toujours un peu d'humour sur les bords, partout, dans les corridors, un peu partout. Après le rire, on devait être professionnel.
Justement.
Oui, je ne sais pas si Omar se souvient de Mamadi. C'était son bras droit.
Mamadi
Diallo, qui faisait très très vite de nous remettre à notre place. Mais c'était le premier à lancer les blagues, mais c'était aussi le premier à nous remettre sur les rails.
Oui.
Maintenant, il faut travailler.
On l'invitera, oui. Il sera notre invité après, oui. Dans les podcasts à venir.
Et un autre souvenir, c'est les journées de formation dans le Valais.
La formation multimédia de Voix d'Exil.
Oui, justement, oui. J'étais en train de poser la question. Est-ce que vous avez fait la formation multimédia,
oui,
de Voix d'Exil?
Oui, oui.
Qu'en pensez-vous de cette...
Alors, juste contextualiser la formation multimédia de Voix d'Exil, en tout cas dans sa forme avant le Covid, c'était une session
par mois
en Valais, lors de laquelle on abordait différentes matières.
Oui.
Je te donne la parole peut-être pour le décrire.
J'ai supplié Omar à le faire revenir, mais on ne sait pas encore, parce que j'ai beaucoup entendu de cette formation.
Elle a pris une autre forme maintenant, on va revenir, mais c'était donc des cours de rédaction de technique, non, des cours technique de technique
de
journalistique,
oui.
Photographie aussi.
Photographie.
Quoi,
expression publique. Hein.
Oui.
Voilà, alors, qu'est-ce que ça t'a... Enfin, ces cours, ça t'a marqué? Quel souvenir est-ce que tu en gardes de cette formation multimédia?
Mais encore une fois, on pense qu'on peut prendre juste son appareil photo, puis juste prendre une photo. Non, non. Il y a des techniques. Si on veut de belles photos, si on veut... En fait, on se rend compte que dans tout, si on veut de belles choses, si on veut des choses pas parfaites, mais presque parfaites, on doit apprendre et y mettre du sien. Et ça, ça a été aussi très intéressant. On a fait des jeux de rôle pour l'expression, justement. Et c'était... En un mot, en fait, ce que je peux dire, c'est qu'avec Voix d'Exil, j'ai beaucoup appris. Vraiment.
Donc, je finis les questions par rapport à voie d'exil. Quand vous pensez ou quand vous entendez le mot voie d'exil, qu'est-ce qu'on pense à vous ?
Qu'est-ce que ça vous évoque ?
Qu'est-ce que ça vous évoque ? Bon, merci.
Aujourd'hui, voie d'exil, ça me renvoie à l'opportunité qu'ils m'ont donnée, en fait, parce que plus tard, en 2021, je suis devenue rédactrice d'un journal local, Le Point Chablais. Et si je n'étais pas passée par voie d'exil, je n'aurais jamais osé.
Très bien.
Ouais.
La formation multimédia a donné...
Ouais, porté ses fruits, je suis très content de l'apprendre, je ne le savais pas.
Ouais. Oui.
Maintenant, des petites questions plus terrestres.
Oui.
J'aimerais les appeler. Quelle est votre trajectoire professionnelle depuis que vous aviez quitté la rédaction ? Donc, on a su que c'était le journal local.
Oui, le journal local, c'est du bénévolat. C'est du bénévolat. Là, je suis interprète communautaire.
Et en quoi consiste l'interprétariat communautaire ?
C'est pas de la médiation, mais on sert de lien entre des gens qui ne peuvent pas communiquer à cause de la langue. Et je fais cet interprétariat en kirundi et en anglais. Pour ceux qui parlent anglais et pour ceux qui parlent kirundi.
Kirundi, donc la langue...
Ma langue maternelle.
Langue maternelle du Burundi. Hein.
Oui, oui. Et ça se passe dans tous les secteurs. Ça peut être à l'hôpital, ça peut être dans la migration, ça peut être à l'école, ça peut être dans les services sociaux. C'est... Oui, oui, voilà.
Donc l'expérience à voie d'exil, on peut dire que vous a aidé pour l'intégration sociale et professionnelle en Suisse.
Oui, tout à fait.
Et même si maintenant, par exemple, vous êtes offert un job comme rédactrice, journaliste, vous pouvez le faire, je pense.
Je veux dire, peut-être, on va peut-être reformuler un peu la question. Est-ce que vous voyez un lien entre votre expérience à Voix d'Exil, le journalisme, et ce que vous faites aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a des liens ou pas du tout ? Ou est-ce que Voix d'Exil a joué un rôle ou pas dans votre trajectoire professionnelle ici en Suisse ?
Dans mon investissement.
Trajet socio-professionnel, oui. Hein, je veux dire, y a...
Investissement, je ne sais pas. Dans mon investissement social, je dirais. Par exemple, ce bénévolat avec le Point Chablais, ce journal, dans mes contacts sociaux, que ce soit là où j'habite ou là où je vais travailler maintenant, mon passage à voie d'exil met une référence. Oui.
La Suisse est un pays très multiculturel, avec quatre langues officielles, une grande diversité de populations, de traditions et de cultures. Il est en quelque sorte difficile d'être un réfugié ici. Avez-vous des conseils à donner à une personne migrante qui vient d'arriver ici ?
Oui, je dirais, quand on a décidé de partir de chez soi, on l'assume complètement, on apprend à être patient, mais je pense que le plus important, c'est dans l'adaptation, dans l'intégration, le plus important, je pense, c'est la langue. C'est la seule qui peut permettre d'être à l'aise. Et de ne pas rester les yeux fixés en arrière.
C'est le mot-clé de l'intégration, en fait,
ouais,
la langue.
Tout à fait.
Pour ceux qui ne le connaissent pas. Oui.
Un grand merci à Marie-Cécile Inarukundu d'avoir partagé avec nous sa trajectoire et son parcours à voie d'exil. Je le rappelle, vous êtes en Suisse depuis 2017 et vous étiez rédactrice à voie d'exil pendant les années 2019 et 2020. Un grand merci également à Elvana Toufa pour cette interview. N'hésitez pas à réagir ou à commenter ce sujet en laissant un petit commentaire juste en dessous ou à le partager sur vos réseaux sociaux. Ce podcast a été réalisé par Voix d'Exil, le média d'information destiné à l'expression libre des personnes migrantes. Un sujet à retrouver sur voixd'exil.ch.